Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible et je vous propose une lecture qui a, eh bien, son originalité. C'est dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 5, et nous allons lire quelques versets. Si vous voulez bien suivre cette méditation, voilà donc, je rappelle, livre du prophète Daniel, chapitre 5, et nous allons commencer par le verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Voilà une première partie de notre situation, et je vous propose que nous poursuivions, eh bien, au verset 25 jusqu'au verset 28. Alors, le verset 25, il est dit cette parole, puisque nous avions la question de l'interrogation de cette écriture, et le verset donc nous dit « Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée, et voici l'explication de ces mots, comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Alors, en fait, d'originalité, ça l'est parce qu'il s'agit tout simplement, eh bien, d'une révélation. Un homme qui est roi, il s'appelle Belshazzar. Et puis, il y a un personnage central dans cette histoire. Ben, c'est l'auteur du livre, hein, il s'appelle Daniel, il est prophète. Et il est à Babylone. Alors, c'est un homme qui a eu à exercer son ministère de prophète à plusieurs reprises. Et c'est un exilé. Lorsque Juda a été envahi par les armées de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le roi, l'empereur, eh bien, de Babylone. Il était emmené avec d'autres jeunes gens. Hein, Daniel faisait partie de la famille royale. Il était princier, il était prince, pardon. Et nous voyons que, eh bien, il est observateur de la société humaine de son temps. Et il va se trouver à ce moment précis, nous avons lu, eh bien là, notre texte, il va se trouver à la fin d'un des plus prestigieux empires, c'est-à-dire c'est un monde qui peut avoir quelques ressemblances avec le nôtre aujourd'hui. Et il va donc être là pour apporter les pensées de Dieu, les visions qu'il doit transmettre à ce roi qui s'appelle Belshazzar. Belshazzar, il faut s'en souvenir, il est tout simplement le fils du grand empereur Nebuchadnezzar. Donc, je disais que c'est un monde, le monde antique, le monde de ce temps, eh bien, ressemble étrangement à notre monde moderne, à travers ses mœurs, sa folie, sa corruption. Et ce n'est pas sans nous rappeler, eh bien, ce que Jésus, prophétiquement, a annoncé dans ses prophéties lui-même, eh bien, à travers l'évangile de Luc, où il est dit que dans les derniers temps, tout simplement, eh bien, dans un rappel de l'histoire, il nous dit que des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et voilà ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient, se marier et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce que nous constatons, c'est que il y a là, autant dans, eh bien, cette situation qui nous occupe dans le livre de Daniel, que dans les prophéties, on pourrait dire eschatologiques, c'est-à-dire annonçant le retour de Jésus-Christ, la soudaineté d'une situation qui va, eh bien là, marquer, bouleverser finalement, eh bien, l'histoire de ce temps-là. Le roi Belshazzar avait des richesses considérables puisqu'il était, il régnait sur non seulement un royaume, mais c'était plutôt dire un empire. Et à un moment donné, eh bien, il va offrir un festin à plus de 1000 convives et avec tous les grands de son royaume. Dans cette cour raffinée, et en fait, règne la dissolution. Nous savons que ça va se situer dans un temps tout à fait particulier, alors que le roi fait une fête dans son palais avec les grands de son royaume, de son empire. Eh bien, nous nous apercevons que les armées des Perses, des Mèdes et des Perses, environnent, assiègent la ville de Babylone. Alors le roi et son entourage se livrent à la boisson, et cela passe à nous rappeler également cette tragique histoire de l'anniversaire d'Hérode, où, eh bien là, à travers une folie de l'ivresse, eh bien Hérode va être obligé de couper la tête de Jean-Baptiste. Et beaucoup de femmes sont présentes aux festivités pour y ajouter à la gaieté le roi, à l'idée saugrenue, à l'idée de faire boire ses invités dans les vases sacrés. Et ces vases sacrés avaient été en effet enlevés du temple de Jérusalem au moment de la conquête de Juda. Et c'était des vases qui provenaient du temple de Jérusalem. Alors on peut le relire. Il nous est dit que le roi Belshazzar donna un grand festin. C'est toujours le chapitre 5, verset 1er. Donc, un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Le roi Belshazzar, quand il eut goûté le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. On apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu de Jérusalem. Voilà ce qui nous est dit. Et il s'agit d'une attitude insultante et une provocation de mélanger le paganisme le plus primitif, primaire, et finalement, eh bien, à ce qui pouvait représenter, eh bien, pour les Juifs, ce qu'il y avait de plus sacré. Mélanger le profane et le sacré. Alors la fête, le vin, les femmes courtisanes, célibrasses, et on ne sait plus très bien ce que l'on fait jusqu'à faire n'importe quoi. Nombreux, c'est vrai, il faut le dire, si on veut rapprocher peut-être avec notre société d'aujourd'hui, nombre de bons vivants, on peut les appeler comme ça, qui sont emportés par un courant de prétendu amusement, parce que leur conscience les gêne, parce qu'ils veulent rire à tout prix, ne tarissent pas de plaisanterie jusqu'à traîner dans l'orgie les choses saintes de Dieu et Dieu lui-même. Alors il nous est dit que le roi but, ils s'en servirent tous pour boire et ils burent du vin. Ça nous est répété 4 fois pour montrer l'insistance qui est faite dans le texte, eh bien, de cette profanation. Le meilleur au service du pire, les vases sacrés du temple de Jérusalem, eh bien, vont servir dans cette situation, eh bien, là, une fête qui, eh bien, fait honte. Et quand les hommes, même les grands, perdent la raison et la conscience, le résultat est toujours tragique et néfaste. Verset 4, eh bien, nous ajoute ceci, ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, et de pierre. L'ivresse, l'immoralité, l'indignité conduisent souvent à la plus funeste idolâtrie. L'abaissement de l'homme intelligent au culte, eh bien, Seigneur, rend ce culte du néant. Dieu d'or, de pierre, etc. La plus vulgaire et grossière dégradation, et il est grotesque d'adorer la matière inerte et l'œuvre des mains de l'homme. C'est l'opposé de la foi, naturellement, et tout cela, eh bien, est le résultat, certainement, dans le cœur des hommes, de la superstition. Hier et aujourd'hui, l'adoration de faux dieux est aussi prisée. On peut peut-être lui donner des mots qui ont une connotation beaucoup plus moderne. On peut parler de notre force, de notre technique ou technologie, du savoir, de nos connaissances, de ce que l'homme est capable de créer de beau et que l'on appelle les arts, ou, et surtout, avant tout, eh bien, l'argent. Ajoutez à cela la curiosité malsaine de l'avenir, la pratique de l'occultisme. N'est-ce pas une autre forme de paganisme mis au goût du jour? C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui, et nous voyons que, selon ce que la Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. De plus, comme le roi Belshazzar l'a fait, mélanger la célébration d'un culte idolâtre en se servant des vases sacrés de l'Éternel, et cela va mettre un comble ou le comble à la culpabilité. Il faut vraiment que la folie ait aveuglé le bon sens et la réflexion pour arriver à une telle confusion. C'est l'apôtre Paul qui nous laisse une pensée similaire et qui nous montre un peu l'état moral ou l'état spirituel, mais dans le mauvais sens. Quand il écrira ceci dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dira, en ce qui concerne le comportement des hommes, il dira, mais nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Et il ajoutera, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors on comprend que dans ce que Paul parle, il parle que la réalité de Dieu, la nature de Dieu, la pensée de Dieu, est voilée. Il est voilé non pas à ceux qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, qui ont véritablement à cœur de s'approcher de leur Créateur, mais pour ceux qui périssent et ils ne savent pas finalement qu'ils sont perdus. Alors il est parlé des incrédules, ceux qui refusent envers et contre tout de croire à l'existence de Dieu. Et il parlera dans le Dieu de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? La Bible lève le coin du voile parce que elle le démontre toujours comme le prince de l'air, le prince de la puissance de ce monde. Et on sait très bien que, d'après les textes de la Bible, il a un nom, il s'appelle Satan, c'est le diable, qui se fait l'adversaire de Dieu et des hommes. Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence pour une bonne raison, afin qu'il ne voit pas briller, tout simplement, l'évangile de la gloire de Christ. Une des choses que le diable redoute le plus possible en ce qui concerne les hommes, créatures de Dieu, c'est qu'ils viennent, ils parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés en croyant, finalement, ce que Dieu leur dit, et surtout celui qui leur a été destiné, c'est-à-dire croire dans le salut en Jésus-Christ. Alors, si l'on continue notre message, la fête à ce moment-là bat son plein et tout le monde s'amuse. Chacun vit pour l'instant T, sans aucunement penser que tout cela peut s'arrêter soudainement. Et c'est ça justement le drame de la vie. C'est que il y a des gens qui finissent leur pèlerinage terrestre tout simplement naturellement dans l'âge avancé, souvent naturellement précédé d'un dépérissement et tout simplement de l'usure du corps. Mais nous nous apercevons qu'il y a malheureusement dans notre monde des tragédies. On peut appeler cela, on peut lui donner le mot de tragédie. Mais en pensant que finalement, à travers l'accident, à travers une maladie brutale, à travers toutes sortes de choses inattendues, c'est vrai que ça peut s'arrêter soudainement, d'une façon ou d'une autre, soit par le fait de guerre, soit par tout ce que nous rapporte les médias, et ça a toujours été de cette manière. Et on s'aperçoit que les hommes ne sont pas conscients de cela, qu'à un instant ou un autre, ils peuvent partir, ils peuvent mourir, tout simplement. Et nous apercevons que dans le cas qui nous occupe, c'est l'inconscience et l'insouciance totale, comme si rien ne pouvait troubler les réjouissances. Eh oui, passer de la joie, de l'ivresse, de toutes sortes de plaisirs, la réalité, c'est-à-dire que nous sommes mortels. Et ils ne veulent pas y penser. C'est un refus. Il nous est dit à un moment donné dans le prophète âgé, me semble-t-il, quand il est dit ceci, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ça, c'est une réalité où nous devons toujours, penser que chaque instant, chaque heure, chaque jour, alors faut pas traumatiser avec cela, mais ça peut être notre dernier jour puisque nous le voyons constamment autour de nous et c'est vrai que c'est souvent dramatique et d'un profond trouble naturellement. Pourtant, et nous l'avons dit tout à l'heure et je le répète, la ville de Babylone est assiégée par les armées de Darius le Perse, qui se prépare à entrer par ruse pour finalement renverser l'empire de Belshazzar. Les choses sont ainsi inscrites dans l'histoire, l'histoire antique, et même les historiens non-croyants, eh bien, rapportent ce fait comme étant authentique. Heureusement, Dieu rappelle parfois aux hommes et les ramène à la raison. Et on va poursuivre à partir du verset 6, et nous l'avons lu tout à l'heure, mais quand il y a eu cette inscription sur le mur, alors le roi donc changea de couleur, ses pensées se le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir des astrologues, des chaldéens, des devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre. » Enfin, il y a naturellement eh bien là toute une récompense qui suit. Et tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et donner au roi l'explication, sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Un étrange phénomène inattendu survient au moment du summum des réjouissances et de l'ivresse et de la joie et tout ce que l'on peut imaginer dans ce contexte. Et ce phénomène va se présenter sous la forme d'une main, des doigts qui inscrivent face au chandelier, c'est-à-dire en pleine lumière qui éclaire, sur le mur de chaux du palais, quatre mots. Dès que la main de Dieu, et là nous pouvons en tirer la conséquence, tout simplement une première réponse, pour nous dire que dès que la main de Dieu se montre, la fausse sécurité fait place à la terreur. Lorsque Dieu a donné à l'homme sa lumière, qu'il a donné du temps pour se repentir, et Belshazzar, il faut le dire, et toute sa cour n'était pas dans l'ignorance de Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Juda, le Dieu de Daniel, parce que tout le monde savait, à cause du prophète Daniel, et de l'histoire, eh bien, qu'il fallait faire, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et à ce moment-là, puisque l'homme est informé, puisque le roi est informé, puisque là, toute cette ville de Babylone était informée, puisque la cour était informée, le jugement divin est irrémédiable. Et ça, il faut en tenir compte. Nous sommes dans une société, finalement, eh bien, judéo-chrétienne, et on ne peut pas dire que nos concitoyens n'ont jamais entendu parler de la Bible, n'ont jamais entendu parler de Jésus, n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Et dans une grande majorité, même sans y croire, mais une grande majorité, les gens ont la connaissance. Et c'est justement le drame de tout cela, c'est que lorsque nous avons affaire à des gens qui sont totalement ignorants, qui ne connaissent rien, alors à ce moment-là, eh bien, la responsabilité est moindre. Mais nous savons, de par l'Écriture sainte, elle y revient assez souvent dans les exhortations que nous en recevons, c'est que on demandera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup, celui qui connaît, eh bien, est responsable, finalement. Alors, nous voyons que dans cette situation, eh bien, Dieu avait donné ses lumières, et puis toujours du temps pour, eh bien, se remettre en cause devant Dieu, faire le bilan avec Dieu, surtout dans, eh bien, la précarité de l'existence, qui peut être emportée à un moment ou à un autre. Moi, je pense qu'il faut toujours être prêt, finalement, eh bien là, à rencontrer Dieu. Prépare-toi, nous l'avons dit tout à l'heure, à la rencontre de ton Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de vivre. Il ne faut pas dire qu'il faut vivre dans le traumatisme, l'anxiété, etc. Puisque, de toute manière, la Bible nous dit que si cette préparation est faite, eh bien, si cette foi se dégage, cette confiance se dégage de ce que Dieu nous dit, si nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, celui qui a été donné, qui a fait l'expiation de nos péchés, eh bien, à ce moment-là, nous recevons cette sagesse, qui n'est pas une sagesse humaine, mais une sagesse spirituelle, qui nous donne d'être prêts, d'être dans la paix, le repos du cœur, le repos de la conscience, cette tranquillité intérieure, cette sérénité, que celui qui croit en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains. Alors, combien de gens agissent comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'avait jamais parlé, comme si Jésus n'était jamais venu sur la terre, comme si, eh bien là, eh bien la Bible était un livre tout simplement arrangé parmi les livres tout simplement classiques et sans autre intérêt, hein, finalement qu'un message formidable qu'il nous donne. Alors, les hommes savent où se trouve la vérité. Ouais, la vérité, elle ne se trouve pas dans une église, elle ne se trouve pas dans un mouvement. Elle ne se trouve pas dans, eh bien là, une philosophie religieuse. La vérité, elle se trouve dans la personne de Jésus qui a dit lui-même et proclamé, hein, dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, Je suis la vérité, je suis la vie. Donc le chemin, suivez-moi. La vérité, croyez-moi. Et la vie, acceptez-moi. Parce que nul ne vient au Père, tout simplement, que par moi. Alors, nous voyons que le monde sait. Le monde chrétien, en tous les cas, sait. Mais il s'en éloigne. Et le gros problème, c'est qu'il refuse de s'humilier pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement, à sa guise. Parce que c'est gênant de connaître Dieu. Et je pense que, quelque part, c'est un faux problème, c'est un grand malentendu en pensant que lorsque nous nous approchons de Dieu, alors à ce moment-là, nous ne pourrons rien faire, nous ne pouvons plus rire, nous ne pouvons plus vivre, nous ne pouvons plus manger, nous ne pouvons plus faire ceci, parce que l'exemple catastrophique qui a été donné par les religions qui n'ont pas gardé l'esprit de l'évangile, eh bien, n'est fait que de lois, de commandements, d'interdictions, de privations, et tout cela dans un but de gagner son ciel par nos propres efforts. Alors il ne s'agit pas de nos efforts, il s'agit de croire. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit, et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut dire et redire au monde, qu'il faut redire aux hommes, c'est-à-dire que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et nous voyons que le monde chrétien, comme les mondes qui nous ont bien là précédés, sont des mondes qui valorisent les bonnes œuvres, le mérite, les qualités d'homme, etc., comme si nous avions à gagner, comme si nous avions à conquérir le ciel, puisque, eh bien, il n'y a rien à faire sinon croire. C'est la foi qui sauve, tout simplement. Et nous nous apercevons que, eh bien, les hommes se détournent de cette simplicité de l'évangile pour se compliquer la vie, avec des philosophies religieuses, avec des théologies, avec toutes sortes, un labyrinthe, un méandre, dont ils ne peuvent pas, finalement, eh bien, s'en sortir. Sinon, eh bien, il faut avoir l'amour de la vérité pour s'approcher de Dieu. Donc, il refuse de s'humilier pour pouvoir continuer à vivre à leur guise. Au moment même du blasphème, où là, eh bien, toute la compagnie réunie dans le palais de Belshazzar, eh bien, là, est au summum de la folie de l'ivresse, il y a cette main mystérieuse qui écrit sur le mur le message fatidique. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et c'est une parole de jugement. Mais où la grâce, et nous allons le voir d'ici quelques instants, et je l'ai déjà exprimé il y a, eh bien là, une minute, c'est tout simplement, là, eh bien, un jugement, certes, un avertissement, mais où la grâce n'est pas exclue. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. C'est que Dieu n'est pas venu pour perdre les hommes, il est venu pour les sauver. Jésus le dira lui-même, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde croie en moi et qu'il ne soit pas condamné, ni même jugé. » Et on pourrait dire que cette écriture sur le mur, visible de tout le monde et qui a causé la terreur et l'effroi finalement du roi et de tous ceux qui étaient autour de lui, eh bien c'est pour nous montrer qu'il y a toujours, parce que c'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, il y a toujours un dernier et ultime avertissement à la conscience des hommes, en l'occurrence à la conscience du roi. Et il est désormais trop tard pour échapper aux conséquences, mais il est encore possible, ne fût-ce qu'une heure, une minute, restant à vivre, de se tourner vers Dieu et de se repentir et sauver son âme. Il y a une parole extraordinaire que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, où il est dit cette parole, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Et je crois, nous en avons un exemple patent, lorsque il y a ce brigand sur la croix et qui, alors qu'il est dans l'impossibilité de se sauver, puisqu'il est attaché naturellement sur cette croix, eh bien va se tourner vers Jésus et va lui dire tout simplement, « Mais souviens-toi de moi, lorsque tu viendras dans ton règne. » Et Jésus de lui répondre aussitôt, puisque la mort est imminente pour ces trois hommes, eh bien, Jésus lui dira, mais tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et ça, c'est quand même particulièrement important, parce que quelquefois, nous nous désolons de voir des hommes finalement partir, hein, et qui n'ont pas eu une vie finalement de foi, ou une vie chrétienne, ou une vie engagée bien pour Dieu. Mais vous savez, je crois que au dernier moment, dans l'ultime instant, l'Esprit de Dieu agit. Nous prions, et lorsque nous prions, lorsque les chrétiens prient pour un membre de leur famille, ou peut-être des amis, ou peu importe, mais une chose qui est certaine, c'est que nous prions pour qu'ils soient sauvés. Moi, je crois que dans le ciel, eh bien, Dieu a entendu nos prières, Et d'une manière invisible, d'une manière silencieuse, d'une manière inattendue, Dieu est capable de rendre témoignage par son esprit auprès de ces hommes qui sont à l'agonie, qui sont là à la fin, et peut-être au dernier moment de dire, eh bien, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés, et je crois en toi. Alors à ce moment-là, eh bien, c'est toute la valeur de cette parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, on va un peu plus loin naturellement dans notre message, et la question naturellement, on est devant compter, peser, diviser, mais qui va expliquer cela? Qui va expliquer ceci? Alors, nous avons, on avait vu que Belshazzar, eh bien, est aux abois, hein, il fait venir tout simplement vers ceux qui peuvent l'aider, c'est-à-dire tous ceux qui font partie de son entourage, hein, les magiciens, les scribes, toute cette les devins, et les chaldéens, enfin les astrologues, enfin toutes sortes de choses. Et nous voyons que dans son immense trouble, alors la fête joyeuse tourne court, la réalité, l'imminence de la catastrophe se fait sentir de plus en plus, l'impossibilité de s'en sortir fait tragiquement prendre conscience, et là c'est une forme de réveil, du sauf qui peut en quelque sorte. Et dans la stupeur générale, la reine va intervenir et rappelle devant tous la présence dans le royaume d'un homme qui était un homme extraordinaire, un homme qui est quelque part, par l'intelligence qu'il a des choses, de la vie, qu'il a de Dieu surtout, eh bien cet homme c'est le prophète Daniel. Et on dira, la reine dira, mais c'est un homme qui sait expliquer les mystères. Alors le roi le fait venir d'urgence auprès de lui. Alors les premiers mots du prophète sont les suivants, que nous allons eh bien découvrir ensemble, quand il dit ces mots, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoi que tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison étaient apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Et tu as loué le dieu d'argent, les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes foies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture, celle que nous avons lue tout à l'heure et sur laquelle nous allons revenir naturellement. Tous les astrologues et tous les magiciens de l'Empire autour du roi ne peuvent pas donner l'explication, ils vont être confondus. Il nous est dit à un moment donné, ils ne purent tout simplement pas lire l'écriture et donner au roi l'explication. Et on sait que la reine est intervenue, et elle va parler de Daniel dans ces termes. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père, au roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, alors que finalement Daniel n'était rien de tout ça, parce que ça relève finalement de la discipline de l'occultisme et des choses qui sont en abomination à Dieu, et parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de réduire les questions difficiles, de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Voilà la grande différence entre finalement la spiritualité ténébreuse dont eh bien là l'appellation est la magie, l'occultisme, les choses de néant, et puis cette inspiration qui vient de Dieu et dont Daniel était le dépositaire. Alors lorsque nous revenons naturellement à ce que nous avons dit, puisque Dieu va par cette écriture et l'explication que Daniel donnera de l'écriture, il dira, mais tu as mis le comble de l'abomination. Tu es un homme, toi, le roi, qui sait. Tu as entendu le témoignage de ton père. Tu as vu ce que ton père a vécu, parce qu'il a été conduit dans certaines situations où le prophète Daniel, eh bien là, lui a dit la pensée de Dieu, la vision de Dieu et les plans de Dieu. Et ton père s'est humilié, il s'est repenti. Mais toi, tu as poussé le comble, finalement, de ta folie en te servant des vases sacrés du temple de Jérusalem, qui est le temple de ton Créateur, le temple de Dieu, et tu t'en es servi pour ton orgie, pour faire des choses inacceptables, des choses qui sont, eh bien là, inacceptables. Alors, Dieu ne punit jamais au hasard, et c'est une chose qui se révèle, parce que nous voyons que la vérité, quoi qu'il en soit, eh bien, apparaît au grand jour. Dieu est en train de dévoiler le péché tel qu'il est. Dieu compte, et il pèse nos actions. Nous pouvons toujours échapper en nous donnant une bonne conscience, en essayant de compenser le mal par le bien, toutes sortes de choses, mais nous voyons que Dieu est juste. Et quand il sauve par grâce, eh bien il sauve sans l'intervention de nos qualités, de nos mérites, et ça, finalement, eh bien, il est juste quand il punit, et l'incrédule selon l'exactitude de sa justice, c'est-à-dire ce que nous sommes, ce que nous avons fait réellement. Et nous l'avons vu donc dans la lecture que nous avons prise il y a un instant. Dieu châtie alors Belshazzar à cause de sa débauche, de ses blasphèmes, parce qu'il a été compté, parce qu'il a été pesé, il a été trouvé léger. Peut-être sur cette pensée, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de chacune de nos vies? Quel poids faisons-nous dans la balance? C'est important. Qu'est-ce qui a le plus compté dans notre existence? Quel poids et quelle mesure nous nous sommes servis durant notre vie? Et peut-être on pourrait l'étendre, mais quel poids et quelle mesure nous nous sommes servis pour les autres? La manière dont nous les avons traités, les choses, les personnes, notre manière de gérer nos responsabilités, et ceci et cela. Alors l'alternative est la suivante. Si nous voulons résister, ce qui est le cas du roi Belshazzar, si nous voulons contester, si nous voulons discuter et présenter à Dieu nos prétentions entachées de péché, nous ne ferons jamais le poids. Toutefois, si nous sommes liés à Dieu par la foi et l'obéissance, par une recherche sincère de vérité, de justice, d'intégrité, bien que nous sommes loin d'être parfaits, mais avec au fond de notre cœur et dans notre conscience du bien faire, de pouvoir mener notre vie d'une manière honnête, eh bien à ce moment-là Dieu fera pencher la balance, parce qu'il s'agit d'une balance quelque part. Il fera pencher la balance du bon côté, compter, peser et diviser. À la fin du chapitre 30, il est dit ceci. Parce que c'est la conclusion. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le maître, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Voilà. C'est terrible, parce que nous voyons qu'il y a là un jugement immédiat. Et ce que cet homme avait, sa grandeur, sa puissance, son pouvoir, c'est l'étendue de sa richesse, et voire même de sa gloire, tout cela va disparaître. Ouais, Dieu est capable de renverser les rois, et il nous a dit, leur vie, leur cœur, dans ses mains, tout simplement. La conclusion serait la suivante, c'est que la vie peut ressembler parfois à une fête, qui nous étourdit, ou dans laquelle nous recherchons à nous étourdir, jusqu'à en perdre la raison, la conscience du bien et du mal. Et c'est un peu toutes les sollicitations qu'il y a aujourd'hui dans notre monde, pour échapper à la réalité cruelle, échapper à la difficulté, échapper à toutes les contraintes, échapper à toutes les obligations, échapper à toutes les règles, échapper à tout ce qui quelquefois nous étouffe d'une manière ou d'une autre, et que d'où que cela vienne naturellement, une sorte d'ivresse. Mais tôt ou tard, la main de Dieu écrit et elle révèle la vérité de nos actions secrètes ou de nos actions publiques, et la valeur réelle de notre vie. Parce que, vous savez, ce n'est pas notre avoir, ce n'est pas ce que nous avons, mais l'essentiel, c'est ce que nous sommes. Et si les hommes regardent à l'apparence, s'ils regardent finalement, eh bien là, tout ce qui est l'extérieur de nous-mêmes, la jeunesse, la beauté, les capacités, la réussite, le succès, etc., etc., eh bien, c'est une réalité, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que Dieu voit, c'est surtout ce que nous sommes. L'avoir est une chose, l'être en est une autre. la valeur réelle de notre vie. Jésus traduit la nécessité de changer de vie. Et il le dira dans une circonstance particulière, dans un fait qui est rapporté suite à une question qui lui est posée, par rapport à la précarité de la vie, par rapport à la fragilité, tout ce qu'il peut y avoir d'éphémère dans l'existence, et à la suite d'un rapport qui lui est fait d'une catastrophe qui arrive à Jérusalem. Il y avait une tour qui s'appelait la tour de Siloé, il y avait 18 personnes, enfin il y avait une foule qui était autour de cette tour, et puis à un moment donné, sans savoir ni pourquoi ni comment, cette tour s'est écroulée sur la foule. Et il nous est dit que lorsque on a fouillé dans les décombres, il y avait 18 personnes qui sont mortes tout simplement, qui ont été ensevelies sous les pierres. Alors, c'était un scandale parce que les gens disaient mais pourquoi cette situation? Pourquoi cet accident? Pourquoi cette tragédie? Pourquoi ces hommes? Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour mourir? Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour finalement perdre la vie de cette manière? Et Jésus dira mais ils n'avaient pas péché plus que les autres. C'est pas parce qu'ils étaient les plus grands pécheurs que les autres, mais c'est parce que finalement la vie est comme ça tout simplement. On le voit tous les jours, soit dans les catastrophes aériennes, ou soit dans des naufrages, ou toutes sortes de choses. Et Jésus précisera bien, mais ils ne sont pas plus davantage pécheurs que les autres. Mais Jésus dira, si vous ne vous repentez, si vous ne réglez pas votre vie aujourd'hui avec Dieu, si vous ne réglez pas tout simplement, vous ne faites pas le point de votre vie avec Dieu, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Parce que le salut, nous devons être toujours prêts, finalement. Nous devons être toujours dans les dispositions de dire, c'est peut-être, naturellement, et il faut pas vivre dans la hantise de ça, mais je pense que quand on a fait le pas vers Dieu, lorsque on a réglé notre problème, lorsqu'on s'est mis en règle avec Dieu, lorsque nous sommes dans la paix du cœur, que Dieu donne, la paix de l'esprit, de nos pensées qui souvent, sont agitées, notre conscience avec, la culpabilité permanente, parce qu'il y a des gens qui se rendent malades, terriblement avec ça, mais à ce moment-là, nous vivons une autre vie, nous vivons dans un autre monde, bien que nous restions dans ce monde, mais les choses, nous ne sommes plus influencés par l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui prend le dessus à ce moment-là. Alors, c'est ce que Jésus nous enseignera. Et puis, il nous est dit dans le livre des Hébreux, cette parole, elle est solennelle, elle est importante. Et le livre des Hébreux nous dit tout simplement, il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Alors, pas de réincarnation, pas de je ne sais quel transfert d'une vie dans une autre, d'une façon ou d'une autre, comme les philosophies orientales ou orientalistes, le proposent aux hommes, non, c'est pas une succession de vies qui, doivent nous amener au nirvana ou à une autre dimension. Non, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais il est dit pour ceux qui n'ont pas fait le point avec Dieu. Par contre, moi je crois que la réponse à cette parole, c'est tout simplement, Paul qui le livre, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de jugement, plus de condamnation, plus de crainte, plus de peur, plus d'angoisse. La reine des épouvantes qui est la mort, a disparu. Mais elle a été transformée, elle a été changée par une merveilleuse espérance. Qu'il y a quelque chose d'autre, non pas de ce que nous voyons sur la terre, non pas toutes les contingences affreuses et terribles, dramatiques de la terre, mais c'est ce que l'on appelle tout simplement le royaume des cieux, où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus le mal, où il n'y aura plus de séparation, et vous pouvez le relire dans le livre de l'Apocalypse. Alors Belshazzar, son empire, ce que nous sommes nous aujourd'hui, il y a cette conclusion qui est donnée par cette simple parole que nous avons dans le livre de l'Apocalypse, dans une lettre qui est écrite, à une église du temps des premières églises, on l'appelle l'église primitive, naturellement, où Dieu dira par l'esprit aux chrétiens de l'époque, aux chrétiens qui sont rétrogrades, aux chrétiens qui finalement, retournent à des choses qu'ils ont reniées, auxquelles ils retournent. Il dira ceci, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et je pense que Belshazzar, c'était bien ça, avec son histoire, avec sa fanfaronnade, avec sa gloire, sa gloriole, avec son pouvoir, Finalement, il ne savait pas une chose, c'est que malgré tout l'environnement qui était le sien, tout le prestige, le luxe et tout ce que l'on veut, eh bien Belshazzar, fut-il empereur, finalement de quelque chose qui était considérable à l'époque, l'empire de Babylonien, eh bien, il pouvait entendre cette parole. C'était vraiment sa situation. Comme beaucoup d'hommes d'aujourd'hui, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Maintenant, quand on est mort à soi-même, et quand on croit que Jésus est mort à notre place, alors on passe de la mort à la vie. Et Jésus le dira, que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors que Dieu nous bénisse. À travers cette simple parole, peut-être maladroitement dite, mais dite quand même, parce que ce qu'il faut retenir de tout cela, ce qui est important, c'est le message. Alors que Dieu nous donne sa grâce et nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour ta parole. Nous voulons véritablement, Seigneur, que de cette parole ressorte, apparaisse le plus possible, vraiment la pensée de ton esprit, la pensée de vérité, la pensée de ta justice, la pensée de ton amour pour les hommes qui ne veulent qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés par la foi. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est une vieille histoire que l'histoire est bien là de Daniel, du prophète Daniel. Mais Daniel était porteur d'un message prophétique. Il était porteur d'un message de l'instant pour les hommes de son temps. Et nous avons vu comment les choses, en effet, ont été présentées parce que c'est Dieu qui juge. Et Dieu a une balance juste. Il n'y a pas de faux poids, mais il y a véritablement la justice chez Dieu. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te demander, Seigneur, que à cette vieille histoire des siècles, eh bien, vienne maintenant apparaître l'esprit de l'Évangile. Parce que tu n'es pas venu, c'est vrai, pour condamner les hommes. Mais quand ils ne veulent pas, Seigneur, eh bien, ils suivent tout simplement leur chemin, leur voie, qui est une voie, Seigneur, qui est tout à fait à l'inverse de ta volonté, qui est celle, Seigneur, de faire du bien aux hommes, de les amener à se repentir, de les amener à prendre conscience de la précarité de la vie, de les amener à prendre conscience de leur propre état moral et spirituel, et d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Merci Jésus, parce que tu nous y aides. Ce ne sont pas des paroles d'hommes, mais nous voulons que ce soit vraiment les paroles de Dieu, qui soient véritablement, qui brûlent dans nos cœurs, pour que nous puissions prendre les véritables décisions et les engagements qui s'imposent, avant que l'inéluctable, eh bien, se produise. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.